On nous a lu que le Christ est mort selon l'Écriture et qu'il est ressuscité selon l'Écriture. Tout s'est passé conformément à l'Écriture. Et nous sommes ici aujourd'hui et en ces jours pour expérimenter ce que dit la parole de Dieu, pour vivre ces choses. Lorsque notre Seigneur a parlé à Jérusalem le dernier jour de la fête, il a prononcé une parole très importante. Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. C'est ce que nous croyons. Et nous revendiquons en ce lieu de croire, comme le disent les Écritures. Que Dieu réussisse à percer et à se manifester et à augmenter et renforcer notre foi. Que nous franchissions le mur du son, que nous atteignions le point où toutes choses sont possibles. Dans la foi, elles sont à notre disposition. J'ai lu aujourd'hui la parole dans Josué. Il ne s'agissait plus de la colonne de feu comme au jour de Moïse. La parole était dans l'arche de l'Alliance. Et le Seigneur a dit, prenez l'arche de l'Alliance et qu'elle soit portée devant par les sacrificateurs. Élevez-vous pour prendre possession du pays. Et comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Bien-aimés, j'ai à cœur, et je pense que nous avons tous à cœur de faire l'expérience avec Dieu, d'expérimenter personnellement Dieu. Nous avons aussi constaté que nous ne sommes pas les seuls à avoir des besoins et des difficultés, mais que beaucoup d'autres en ont aussi. Et ceux qui ne les ont pas encore eus, les ont encore. Chaque croyant doit passer par certaines épreuves et par des tests de foi, car notre foi doit être plus précieuse que l'or qui a été purifié par le feu. Lorsque nous parlons de ce que nous sommes ici pour expérimenter Dieu personnellement, cela ne peut se passer que comme au jour de la Bible, que la parole de Dieu nous parvienne, nous pénètre, que nous en soyons saisis, emportés par la parole de Dieu, pénétrés, inspirés, et que ensuite, dans la foi, nous acceptions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Car toute promesse de Dieu est oui et amen en Christ. Non seulement oui, mais aussi amen. L'accomplissement. Tout est devenu possible. Et la foi dont nous avons besoin est bien la foi qui est opérée par l'Esprit et la parole. La foi qui se transforme en révélation et la révélation qui va ensuite vers ce que Dieu a promis, qui nous fait y aboutir et nous pouvons emporter avec nous ce pourquoi nous avons prié. En ces jours, nous sommes ici, des différents pays, nations, couleurs, races, mentalités, de différentes églises et églises libres. Mais nous sommes ici pour nous précipiter vers un but que nous avons sous les yeux et pour l'atteindre. Ce qui compte, ce n'est pas d'où nous venons ou qui nous sommes. Ce qui compte, c'est que le but divin soit placé devant nos yeux et que nous soyons prêts et que nous soyons prêts à renoncer à tout le reste et à l'oublier pour laisser Dieu nous guider seulement par sa parole. Nous allons brièvement nous pencher sur les Saintes Écritures. Avant de le faire, je voudrais demander à deux frères de nous saluer. J'ai des salutations cordiales de la part de nos frères et sœurs de Roumanie. Ce matin, un télégramme est arrivé pour la fin de l'année et le début de l'année 1989. Nous vous souhaitons à tous, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, vos frères et sœurs de Roumanie. Ensuite, le frère Étienne Genton a téléphoné d'Italie. Il vous salue tous très chaleureusement. Partout où il se passe quelque chose, vous savez que nous avons eu récemment ces magnifiques réunions à Turin et Dieu a béni de manière puissante, précisément dans la ville où cette fraude du linge a été mise à jour. Du linge qui aurait été le linge du Seigneur. Et je me suis dit que ce n'était que le début. Il faut que toute l'escroquerie religieuse soit mise à jour pour que les gens se rendent compte qu'ils ont été trompés par la religion. Qu'on leur a promis le ciel, mais qu'ils ont été conduits en enfer. Et là, je pense aux paroles de Martin Luther, lorsqu'on lui a ordonné de se taire, il a alors dit, je dois me taire et regarder ces antichrists. Comment est-ce que cet antichrist, au singulier, cet antichrist entraîne des millions d'âmes en enfer? Nous ne pouvons pas nous taire. Et récemment, quelqu'un m'a dit, et j'ai trouvé que c'était très élégamment exprimé, il a dit, frère Franck, nous n'avons rien contre un être humain, mais seulement contre le système anti-chrétien et non divin. Et c'est bien le cas. Nous n'avons rien contre l'islam, nous n'avons rien contre les personnes qui ont été, n'est-ce pas, trompées contre les hindous ou qui que ce soit d'autre. Nous sommes seulement désolés et portant de la douleur que des gens soient égaré et trompé. Et c'est pourquoi nous désirons tellement que Dieu fasse quelque chose qui soit au-dessus de tout doute, pour que tous sachent que ça, c'est la main du Seigneur. C'est l'action de Dieu qu'il remarque l'écriture sur le mur et qu'il sache aussi qu'il y a un Dieu dans le ciel, qu'il existe encore aujourd'hui, pas seulement au jour de Daniel, un Dieu qui révèle les mystères, les secrets et annonce les choses à venir, mais ce même Dieu est notre Dieu, le Dieu de Daniel, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu vivant. Et notre Seigneur a dit, « Celui qui me suit ne demeurera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Hier soir, alors que on a fait cette remarque ici, peut-être, alors que cette remarque vint, ici peut-être devrais-je dire cela aussi, je ne savais pas que notre bien-aimé frère était parmi nous avec son fils hier soir quand j'ai fait la remarque sur l'enterrement. Mais vous savez de quoi il s'agit. Nous qui avons nous-mêmes des fils et des filles, nous compatissons. Et je pense que tous ceux qui ont un cœur peuvent compatir. Et notre frère bien-aimé m'a demandé de vous remercier tous pour votre sympathie et votre participation. Nous sommes en effet pour votre sympathie et votre participation. C'est quoi? Nous sommes allés avec 4 ou 5 voitures à l'enterrement et nous pouvons témoigner et affirmer à toi, frère bien-aimé, et à vous en tant que famille, que nous sommes unis dans l'amour de Dieu les uns avec les autres et que nous portons avec vous, que nous ressentons avec vous, oui, que nous partageons les joies et les peines. Ce qui m'a tellement impressionné lors de ces funérailles, c'est le fait que parmi les 180 personnes ou 200 ou plus, je ne peux pas non plus bien estimer, c'était en tout cas une grande foule. Il y avait la plupart des jeunes. Et cela m'a beaucoup, beaucoup touché. J'ai pensé à moi-même que le Seigneur pourrait quand même réussir à en sauver quelques-uns, afin qu'ils puissent en avertir d'autres de la grande, du chemin large qui mène à la perdition, pour que le Seigneur puisse alors aussi donner des bénédictions et bénir. Et alors que je me dirigeais vers la voiture pour y monter, un jeune homme est arrivé avec la brochure « Le christianisme hier et aujourd'hui ». Sa voiture était la suivante à côté de la nôtre et il est monté dans sa voiture avec la brochure. Et j'ai pensé à nouveau, « Ô Seigneur, bénis ta parole dans le cœur de ce jeune homme. » Et nous ne savons pas encore quel fruit, n'est-ce pas, en sortira. Mais Dieu sait pourquoi. Et cela vous est arrivé, et je le répète, et je le pense, nous portons avec vous, et nous souffrons avec vous. Nous portons avec vous, et nous souffrons avec vous. Selon la parole de l'Écriture, pleurez avec ceux qui pleurent, et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La consolation que nous avons, c'est d'entendre, c'est qu'il a entendu la parole de Dieu. Et je l'ai dit lors des funérailles, il y a quelque chose que nous appelons la grâce aux criminels. Vous savez, les deux qui ont été crucifiés avec le Christ n'ont en effet pas eu le temps de dire grand-chose. Mais l'un d'eux s'est exclamé, « Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et cela a suffi. Cela a suffi. Nous croyons qu'un jeune homme qui a entendu et écouté la parole de Dieu peut encore invoquer le Seigneur à ce moment-là et que le Seigneur sauve. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, très brièvement, je dois bientôt partir pour l'aéroport. Voici brièvement quelques passages de l'Écriture sainte. J'ai été touché de voir hier soir que des jeunes, particulièrement des jeunes, avaient levé les mains. Et je me suis posé la question tard dans la soirée ou au milieu même de la nuit et encore ce matin, que pouvons-nous seulement faire pour aider tous, ceux qui le souhaitent, qui souhaitent pénétrer vraiment dans la certitude du salut. Vous savez bien que la première étape est que les gens se confessent au Seigneur. Mais ce n'est pas encore l'expérience elle-même de la conversion. Ce n'est pas encore la pénétration. Ce n'est pas encore le renouvellement. Ce n'est pas encore la nouvelle naissance. Et nous ne voulons pas être accusés d'être seulement, comme nous le savons, du grand évangéliste mondial qui dit, ils disent aux gens, les grands évangélistes dans ce monde, ils disent, vous pouvez rester là où vous êtes, mais ce qui suffit, c'est de vous décider pour Christ. Une véritable décision pour le Christ implique de suivre le Christ. De devenir un disciple de Christ, suivre Christ. Et nous connaissons encore les temps où, par là, où nous avons persévéré dans la prière, lutté dans la prière, jusqu'à ce que la joie, la paix, la béatitude ont pénétré notre cœur, notre âme, et que nous pouvions chanter « Quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur exulte et pousse des cris de joie » en français. Quel repos céleste. J'ai dit, « Seigneur, que puis-je faire pour aider les jeunes, pour aider tout le monde ?» Puis j'ai pensé, qu'avant que ceux qui ont levé les mains ne s'avancent, il fallait simplement oser appeler tout le monde à s'avancer. J'ai alors pensé jusqu'à 14, puis jusqu'à 21 ans, que non seulement ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu de cet âge-là maintenant viennent, mais que tous les autres aussi viennent. Vous savez que parfois il faut une introduction. Tout le monde n'a pas toujours le courage de confesser aussi ouvertement le Seigneur. Mais ces réunions ne doivent pas passer sans que jeunes et vieux, petits et grands n'aient fait l'expérience de Dieu. Nous ne pouvons pas non plus nous permettre comme ça cela, car nous sommes en effet entrés ou avons été entraînés dans la dernière phase avant le retour de Jésus-Christ. Et nous croyons que le Seigneur accordera une puissante victoire et une grande bénédiction. Je voudrais lire dans l'évangile de Luc la parole connue ou les versets connus du chapitre 1. L'évangile de Luc, chapitre 1, du chant de louange de Marie, je voudrais lire ici Luc 1, versets 53 à 55. Luc, chapitre 1, verset 53 jusqu'au verset 55. Donc, il dit 53, mais il lit à partir du verset 52. Il renverse les puissances, les puissants de leur trône et élève les humbles. Il rassasie de bien les affamés et renvoie les riches à vide. Il a pris soin d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, comme il l'a promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour l'éternité. Comme il l'a promis à nos pères. De la prière prophétique de Zacharie, je lis dans Luc 1, verset 70, oui, 70, nous pourrions lire plusieurs versets, mais je fais partie de ceux qui aiment lire peu. Luc 1, verset 70, donc 70. « Car ainsi il a promis par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois, il nous sauvera de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour faire miséricorde à nos pères et se souvenir de sa sainte alliance. » Ensuite, le verset 79, donc 79, « Pour donner la lumière à ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas dans le chemin de la paix. » De Luc 24, nous avons lu du premier chapitre. J'aimerais maintenant lire le dernier chapitre de Luc. Luc, chapitre 24. Ici, il est écrit à partir du verset 44. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. » Encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Sur quoi il leur ouvrit le sens pour la compréhension des Écritures et il leur dit, il est donc écrit, il faut que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour. Et à cause de son nom, Il faut que la repentance pour la rémission des péchés soit prêchée à toutes les nations, mais d'abord à Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et sachez bien que je fais venir sur vous les biens de la promesse de mon Père. Mais vous, restez ici, dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il existe un évangile originel, tel qu'il a pris naissance dans le christianisme primitif. Dans l'Apocalypse, il est désigné comme l'évangile éternellement valable qui doit être annoncé à toutes les nations et à toutes les langues. Il s'agit de l'évangile divin de Jésus-Christ qui n'a pas été modifié et interprété différemment par les hommes, mais qui est resté tel que dans son origine divine avec ses effets divins. C'est ce que Paul voulait dire dans la parole que frère Rousse nous a lue en introduction, tirée de 1 Corinthiens chapitre 15. Permettez-moi de souligner encore ce verset ici. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3. Car je vous ai fait savoir en premier lieu ce que j'ai aussi appris à connaître, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Paul a répété les paroles de notre Seigneur. Il les a citées littéralement et mot pour mot. Mais maintenant, il y avait ici aussi le verset. Ici, je voudrais que j'aimerais bien le trouver. Je crois que c'était déjà le verset 2. En fait, c'est le verset 2 que je voulais lire. Que nous avons reçu cet évangile, ce message de salut. Vous savez, le mot grec évangile signifie en soi bonne nouvelle. Heureuse nouvelle, message de joie, mais rapporté à Christ, pas seulement un bon et un joyeux message, mais un message de salut. Le salut divin nous a été donné en Christ. Et c'est pourquoi nous prêchons Christ, afin de pouvoir annoncer le salut divin à toute l'humanité. Et Paul écrit à ce sujet, 1 Corinthiens 15 au verset 2, et par lequel aussi vous obtenez le salut si vous le retenez sous la forme sous laquelle je vous l'ai fidèlement annoncé. Autrement, il faudrait que vous fussiez venus à la foi en vain. Il y a en effet des gens qui disent simplement, frère Franck, tu as corrigé et rectifié à maintes reprises au cours des années. Était-ce bien nécessaire? Cette question m'a été posée par des frères qui me sont proches, qui m'aiment. L'un d'eux m'a même dit, n'as-tu pas perdu du temps avec ça? Bien-aimés, cela fait partie du processus d'avertissement. Plus nous voyons le jour du Christ approcher et plus ce jour approche, plus la proclamation divine de la parole et de l'évangile de Jésus-Christ doit être placée sur le chandelier avec clarté, avec vérité et avec pureté. Et il y a justement des hommes qui sont imprégnés des vérités divines. Et c'est sur eux que doit rebondir toute erreur. Comme nous l'avons dit ici hier soir, ce n'était pas un chapitre entier. C'était une seule parole, un seul mot qui a conduit l'humanité entière à la ruine. Un seul mot transgressé, une seule parole transgressée face à une seule parole, la désobéissance a tout entraîné dans la mort et la perdition. Et puis, nous voyons Jésus-Christ, la parole faite chair, qui a obéi à toutes les exigences de la loi, qui était obéissant jusqu'à la mort sur la croix afin de devenir homme pour l'humanité qui était tombée avant d'être l'homme céleste. Certains n'ont pas encore vraiment lu cela non plus dans 1 Corinthiens 15. Mais il est bien écrit ici, Christ est d'origine céleste. Il est devenu homme à cause des hommes, mais il est resté Dieu à cause de Dieu. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, il devait être homme pour pouvoir mourir. Il devait être Dieu pour pouvoir vaincre la mort, l'enfer et le diable. Car Satan avait tout emporté avec lui. Mais maintenant, celui qui avait été promis est venu pour écraser la tête du serpent et conduire la prison, donc rendre captif. Donc, délivrer les captifs, délivrer les captifs. Imprimer donc profondément 1 Corinthiens 15, du verset 45. Retenez ça bien. Et que cela nous soit révélé par l'Esprit de Dieu. Il est également écrit, 1 Corinthiens 15, verset 45, il lit maintenant. 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, naturelle. Le dernier Adam est devenu l'esprit qui crée la vie. Or, ce n'est pas ce qui est spirituel, mais ce qui est naturel qui est le premier. Et ce qui est spirituel vient après. Le premier homme, le verset 47, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est d'origine céleste. C'est l'Éternel du ciel. Tel qu'est l'homme terrestre, tels aussi sont les hommes terrestres. Et tel qu'est l'homme céleste, tels aussi sont les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est la rédemption totale que Dieu nous a apportée en Christ. Et je suggère et recommande que nous commencions à croire, comme le dit l'Écriture, et que nous ne craignons pas toujours toutes sortes de choses que nous ne nous inquiétions pas et que nous ne nous affligions pas, mais que nous adoptions notre état de foi, prenons notre position dans la foi, de sorte qu'un jour, les puissances des ténèbres commencent à avoir peur et à prendre la fuite parce que nous nous sommes placés sur le sol victorieux de Golgotha dans la foi. Ce n'est pas comme si nous devions, comme si c'est nous qui devrions livrer un combat contre Satan. Cela a déjà été fait. Jésus-Christ a mené ce combat. Il s'est déroulé dans la salle de Pilate. Il est passé par l'interrogatoire, par Gethsemane, jusqu'à sur la colline du Golgotha. Et là, où extérieurement, les ténèbres se sont répandues et où tout semblait avoir échoué et où l'espoir de ceux qui avaient suivi le Christ avait disparu, précisément à une telle heure. Il a plu à Dieu de faire jaillir la lumière. Il a plu à Dieu d'engloutir la mort dans la victoire pour mettre en lumière la vie éternelle et une nature et la nature impérissable. Lisons encore à ce sujet le précieux passage de Philippiens. Lisons encore à ce sujet le précieux passage de Philippiens, chapitre 2. Ici, nous avons la description de ce qui s'est passé là-bas. Et bien sûr aussi, dans d'autres passages, dans Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, il a été écrit et relaté ce qui s'est passé aussi au Golgotha. Ici, dans Philippiens 2, il est écrit, Philippiens 2, du verset 7. Il s'est même dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, nous devons une fois accepter cela comme une réalité divine et nous y tenir par la foi, dans la foi. Nous n'avons plus rien à négocier avec Satan. Jésus n'a pas dit une seule fois, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils négocieront avec les démons. Il ne l'a pas dit de cette manière. Il a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront avec des langues nouvelles. Il a souligné le côté positif. La négociation était et est derrière nous. Elle a déjà été menée et le Seigneur est sorti vainqueur de tout cela. Permettez-moi de lire à ce sujet le chapitre 2 des Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Et je vous en prie, pendant que nous écoutons la parole de Dieu, approuvez intérieurement cette parole. Dites en vous ou devant vous, oui Seigneur, il en est ainsi, je le crois. Nous devons y adhérer intérieurement. Il doit y avoir des amens, il doit y avoir consentement. Ce n'est pas l'approbation d'un prédicateur à un prédicateur, mais l'approbation de Dieu à Dieu. Nous approuvons ce que Dieu a dit dans sa parole. Et c'est ainsi que nous honorons Dieu dans la foi. Colossiens, chapitre 2, du verset 13. Vous aussi qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait revivre ensemble avec lui. Oui, à peine la moitié a dit Amen. Je vais le relire pour que nous puissions tous dire un Amen du fond du cœur. Vous aussi, vous qui étiez autrefois morts dans vos transgressions et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait, vous aussi, Dieu vous a fait revivre ensemble avec lui. Vous aussi, vous aussi. C'est pourquoi Paul, c'est pour cette raison que Paul pouvait dire, je suis crucifié avec Christ, ce n'est donc plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et il pouvait dire, ainsi, par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ, enterrés pour vivre désormais avec lui en nouveauté de vie par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Christ n'est pas seulement mort à cause de nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour à cause de notre justification. Et nous pouvons vivre parce qu'il vit. Oui, vivre avec lui ensemble, avec lui. Il est la fin du verset 13. Aussi, Dieu nous a fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Par grâce, je l'ai dit à un moment ou à un autre ces derniers jours, ici ou ailleurs, il y a des croyants qui passent leur vie à prier pour être pardonnés, pour que Dieu veuille leur pardonner. Et ils s'inclinent si profondément sous toute leur culpabilité. Et ils le font encore et encore. Bien-aimés, l'heure est venue où nous pouvons nous redresser, nous laisser redresser par Dieu. Nous avons été placés sur un fondement élevé. Lorsque Christ est mort, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Lorsque son sang a coulé, nos fautes et nos péchés ont été expiés et pardonnés. Remercions Dieu pour cela. Il y a des gens à qui l'Esprit de Dieu rappelle certaines choses qui doivent encore être abolies dans leur vie. Mais ces personnes ne tombent pas dans la mélancolie, elles ne se retrouvent pas dans une situation sans issue. Elles se repentent sous l'effet de l'Esprit, une repentance opérée par l'Esprit, car elles sentent qu'elles ont attristé le Seigneur. Mais quand Satan se dresse en accusateur, il voudrait nous anéantir. Les accusations sont alors si massives et si puissantes que tout s'abat sur nous comme une pression et que nous serions prêts à recommencer à nous repentir et à nous détourner des œuvres mortes, comme c'est écrit dans Hébreux 6. S'il vous plaît, faites attention. Si c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la repentance, qui veut provoquer en nous une purification profonde et une sanctification plus profonde, ou si c'est l'accusateur des frères qui veut tout nous faire payer et nous voir nous effondrer. Et dans ce cas, il a obtenu ce qu'il voulait obtenir. Nous sommes ici pour célébrer la victoire de Dieu avec le Christ. Nous sommes ici pour fêter cette victoire et faire une nouvelle expérience avec Dieu. Et si l'Esprit de Dieu met le doigt sur quelque chose, nous l'apportons au Seigneur et disons, « Oh Dieu, aie pitié de nous. » Et le Seigneur nous fait grâce. Il est un souverain sacrificateur fidèle selon l'ordre de Melchisédek. Il a offert une fois pour toutes un sacrifice parfait. Pour faire quoi? Pour créer un salut parfait pour ceux qui viennent à lui. Alléluia! C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas en partie. Et puis donner et prendre et accorder et reprendre et aller et venir, non. Celui à qui Dieu a pardonné, il lui a pardonné une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Ici, c'est plus loin au verset 13, en ce qui... La fin du verset 13, en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Avez-vous lu avec moi? Toutes les transgressions. Pardonner toutes les transgressions. Vous donnez un... Est-ce que ce mot-là donne un sens? Il a pardonné toutes les transgressions. Pas seulement les petites, mais aussi les grandes. Il a pardonné toutes les transgressions. Cher cœur, accepte aujourd'hui comme une grâce de Dieu, comme un don, un cadeau de grâce, comme un don parfait, à savoir le salut de ton âme, le salut divin, le pardon parfait, toute faute, de toute faute, de tout péché. Ne te tourmente plus, trouve la paix avec ton Dieu. Pénètre aujourd'hui dans la certitude du salut et acclame ton Dieu. Crie de joie à lui qui a fait de grandes choses pour nous par grâce. Un auteur-compositeur chante le chant de lamentation à cesser. Loué soit le Seigneur. Maintenant, je ne sers plus de péché, le péché, etc. Ainsi de suite. Je ne sers plus le péché. Je ne sers plus le péché. Et ainsi de suite. Libre, libre. Nous pouvons l'être. Libre. Toutes nos fautes ont été transférées sur lui, placées sur lui. Et le châtiment qui s'y rapporte a également été placé sur lui. Placé sur lui. Afin que nous ayons la paix. Nous prions tout de suite. Avec foi. Après avoir lu ces deux versets. Il relit la moitié du verset 13. Dieu vous a aussi fait revivre ensemble avec lui en nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Nous disons tous amen à cela. Verset 14. Colossiens 2, verset 14. En ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Amen. Verset 15, puis, ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposé au carcan, triomphant d'elle en lui par la croix. Est-ce que cela est vrai? Amen. Amen. Dieu a triomphé en Christ de Satan, de la mort, de l'enfer, du péché, de la maladie, de tout. Nous sommes rachetés selon l'esprit, l'âme et le corps. Les épreuves extérieures ne sont que des tests. Lorsque nous vieillissons, nous pouvons tout de même sourire et dire, Seigneur, tu as fait en sorte que nous soyons éternellement, que nous serons éternellement jeunes. Et lorsque le corps ne veut plus faire comme nous le voudrions, nous disons, Seigneur, nous te remercions de tout cœur, car nous attendons le changement de notre cœur décrépit Nous devons détourner le regard de nous-mêmes et des circonstances qui nous entourent et regarder à Dieu et la parole de Dieu. Alors vient la joie, alors vient la paix, alors vient la bénédiction. Et alors la foi se déclenche. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une foi qui se libère, une foi qui devient libre et qui rend libre. Nous avons besoin de la foi qui est la victoire, qui a vaincu le monde. La foi donne la force de vaincre. Jésus est vainqueur. Amen. Et nous, avec lui, nous nous levons pour la prière. Dieu fidèle, nous te remercions ensemble pour cette grâce qui nous a été accordée. Ce n'est pas par mérite, Seigneur, mais par grâce que nous sommes sauvés. Tu as payé le prix. Nous l'avons entendu, Seigneur. Tu y es allé une fois pour toutes. Ô Seigneur, tu as versé ton sang pour nous. Seigneur, ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or, non, mais avec le sang précieux de l'agneau infaillible, de l'agneau sans défaut que tu nous as racheté. Nous t'adorons, nous louons ta miséricorde, nous célébrons ton nom glorieux. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as rachetés, Seigneur, parce que nous sommes devenus libres, Seigneur, une fois pour toutes, Seigneur. Tu n'y vas pas deux fois. Une fois, Seigneur, tu y es allé. Une fois, tu as effacé nos péchés, Seigneur. Et pour cela, nous te donnons la gloire, la louange et l'adoration. Toi, le grand Dieu, toi, le Dieu saint, nous te louons comme ton peuple. Nous te donnons l'honneur, la louange et l'adoration. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu vois toute notre vie, Seigneur. Ô Seigneur, accorde-nous encore plus de grâce afin que nous puissions tous nous unir et exalter ton nom et élever ton nom qui est au-dessus de tout nom, en qui consiste et est contenu tout salut, rédempteur, présent, roi, sacrificateur et prophète. Nous te remercions pour ta parole ce matin encore, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu continueras à être avec nous, que tu nous béniras, Seigneur, de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, amen, amen.